Donc, on va parler, comme c'est le climat très à la mode, et puis c'est le thème de la météo, le climat de cette année, on va parler de ce qui modifie le climat, non pas des variations climatiques, c'est-à-dire l'effet de serre et le cycle du carbone. J'ai écrit que c'était deux clés indispensables à maîtriser, et il y a beaucoup de gens, particulièrement dans le ministère, qui ne le maîtrisent pas, pour bien comprendre les variations climatiques et éventuellement la COP21. Donc pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser ces deux clés? Parce que le cycle du carbone, quand il est modifié, va modifier la teneur en CO2 atmosphérique, qui va modifier l'effet de serre et qui va modifier le climat mondial. Parler des variations du climat mondial, si on n'a pas compris tout ce qui est en amont, c'est digne des politiques, mais c'est indigne de toutes les personnes qui se prétendent scientifiques. Alors cette conférence d'aujourd'hui fait suite à une autre que j'ai donnée il y a à peu près un mois pour la fête de la science. C'était sur les variations climatiques, non pas sur le mécanisme des variations, mais les variations, la mise en évidence. Cette conf est en ligne grâce à Charles-Henri, que vous avez debout là-bas au fond. Et dans cette conférence, je disais deux fois de suite, je n'ai pas le temps de développer l'effet de serre, je n'ai pas le temps de développer le cycle du carbone, et c'est bien dommage. Donc là, j'en profite, j'ai le temps. Alors, quand on a des clés, il faut déjà apprendre à s'en servir des clés. C'est bien d'avoir des clés, mais il faut savoir comment ça marche. Et pour ça, il faut faire un peu de physique élémentaire. Quand je dis élémentaire, c'est de la date d'à peu près la transition 19e-20e siècle. Ce n'est pas de la physique moderne. C'est de la physique qui, de mon temps, était niveau L1, L2. Maintenant, c'est au niveau, pour les SVT, nulle part. On ne fait plus. Alors, ou pas beaucoup. Il faut d'abord parler de réflexion, d'absorption, de transmission. Vous imaginez un corps, par exemple ce paysage-là, qui reçoit de l'énergie sous forme électromagnétique, hein, la lumière, etc. Il y a une partie de ce rayonnement qui est réfléchi. Si le milieu est transparent, l'eau, par exemple, ça va pouvoir traverser l'eau. Mais l'essentiel est absorbé. Elle n'est pas réfléchie, elle ne passe pas de l'autre côté de la Terre, elle est absorbée. Alors ça, vous savez qu'on appelle l'albédo, le rapport entre l'énergie réfléchie et l'énergie incidente. Alors, sauf cas très particulier, par exemple la fluorescence, l'énergie absorbée réchauffe le corps. Elle ne fait que ça. Alors, ce qu'il faut également vachement bien connaître, c'est la relation entre température et énergie. Énergie ou puissance, hein. La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Un corps qui a une température supérieure à 0 degré K, ce qui est quand même la majorité dans l'univers, émet des ondes électromagnétiques. Et la puissance qu'il émet est égale à W égale sigma T4, loi de Stefan. Ça a au moins 100 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a fêté le centième anniversaire de la loi Stefan. Avec une constante qu'on appelle constante de Boltzmann. J'ai mis M. Stefan, M. Boltzmann en photo. Ce qui vous montre la modernité de la physique, quand vous voyez les photos qui datent du temps de mon arrière-grand-père. Ça veut dire tout simplement ça, que plus un corps est chaud, plus il émet d'énergie. Et ça va très vite, puisque c'est en T4. Toujours une chose qui est importante de connaître, on a vu la quantité d'énergie qui varie avec la température, mais la qualité de l'énergie, pour nous, ça va être la longueur d'onde. On pourrait parler de fréquence, un peu la même chose. La qualité de l'énergie, la longueur d'onde de l'énergie émise par un corps supérieur à 0 degré K, varie en fonction de la température, avec une loi, la loi de Wien. La longueur d'onde, c'est bêta, une constante, sur T. Alors, ce n'est pas une longueur d'onde monochromatique, hein, c'est une longueur d'onde répartie autour d'un maximum. Et le lambda là, c'est le lambda maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si vous êtes très chaud, par exemple comme le Soleil, à 5 800 degrés K, vous appliquez la formule, vous voyez que le maximum d'énergie du Soleil est émis autour de 0,5 micron, qui, comme par hasard, est la sensibilité maximum de notre œil, qui a eu 4 milliards et demi d'années pour s'adapter à ce qu'émettait le Soleil. Par contre, un corps humain qui est à 37 degrés, quand vous faites le machin, vous voyez que le corps humain émet le maximum de son énergie. Je ne parle pas de la réflexion, hein. Ce n'est pas un amplificateur de lumière, cette photo, c'est un détecteur d'infrarouge. Il émet autour de 9 microns. Alors, comme je dis souvent, si un jour vous voulez attaquer, je ne sais pas, une citadelle quelconque en Irak, si vous voulez avancer masqué la nuit, vous y allez à poil. Un jour, il fait 37 degrés. Donc, vous serez, si l'ennemi a les lunettes infrarouges, invisible. Donc chaque corps émet un rayonnement électromagnétique et ça dépend de sa température. Le Soleil donc émet autour de 0,5 micron, ce qu'on appelle le visible, parce que notre œil est adapté à ça. Si vous prenez des braises, qu'a fait votre méchoui, il émet dans ce qu'on appelle l'infrarouge proche, mais il déborde un petit peu dans le visible, et en général, il déborde que dans les lumières, les longueurs d'onde longues. C'est pour ça que les braises paraissent rouges. Si vous prenez un fer à repasser qui est à 200 degrés, c'est entièrement dans l'infrarouge. Un fer à repasser la nuit, ben, vous ne le voyez pas, même le jour. Vous le voyez parce que là, il réfléchit à la lumière des lampes, mais la nuit, vous ne le voyez pas. Le corps humain à 37 degrés, il est en infrarouge moyen. Si vous prenez un corps qu'on appelle bien froid, de la glace à moins 20 degrés, il émet quand même dans l'infrarouge. Ça surprend beaucoup de gens. On dit, ben, un corps très froid émet dans l'infrarouge, oui. Même à 2 degrés K, même à 1 degré K, vous émettez dans la longueur d'onde. Alors, ce n'est plus de l'infrarouge, c'est de longueur d'onde encore plus grande, mais tout corps émet en fonction de sa longueur d'onde. Autre chose capitale à connaître, c'est la notion de température d'équilibre. Imaginez une voiture que vous sortez du garage et que vous mettez en plein soleil. Vous la sortez, elle est à 20 degrés, la voiture est noire. Eh bien, au bout de 5 minutes, il fera déjà 30 degrés dans la voiture, et puis au bout d'une vingtaine de minutes, il fera 55 degrés. La température monte très vite. Et puis après, ça se stabilise. Et pourtant, la voiture, elle reçoit toujours du soleil, elle est en plein soleil. Donc ça monte et ça se stabilise. Pourquoi ça se stabilise? Parce qu'au départ, votre voiture était à 20 degrés, elle n'émettait pas beaucoup d'énergie. N'oubliez pas que la quantité d'énergie, c'est sigma T4. Alors 20 degrés, ça doit faire à peu près 283, c'est pas beaucoup. Mais quand vous rajoutez, elle émet de plus en plus d'énergie, et plus elle est chaude, plus elle en émet, puisque c'est sigma T4. Par contre, elle reçoit toujours pareil, hein, si on est en plein soleil et que... il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, au bout de la force d'émettre de plus en plus, quand elle va arriver à émettre ce qu'elle reçoit du soleil, la même quantité, elle émet autant qu'elle reçoit, sa température est constante. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que quand on a une température constante, par exemple le corps humain, c'est qu'il émet autant qu'il produit. On produit à peu près 100 watts, notre métabolisme. C'est d'une façon ou d'une autre, on émet 100 watts. Sinon, notre température monterait, on aurait de la fièvre et puis après, on crèverait. Et imaginez un corps très froid. Comme il est très froid, il n'émet pas beaucoup d'énergie et qui reçoit une quantité constante d'énergie. Comme il est très froid, il n'en émet pas beaucoup, moins qu'il en reçoit. Donc s'il en émet moins qu'il en reçoit, c'est qu'il en absorbe. Donc sa température augmente, mais plus la température augmente, plus il en émet. Et au bout d'un certain temps, il va en émettre autant qu'il en reçoit. C'est ce qu'on appelle la température d'équilibre, c'est les 60 degrés de ma voiture en plein soleil. Par contre, si on a un corps très chaud, si ma voiture, je la sortais non pas d'un four, elle était à 200 degrés, et que je la mettais en plein soleil, à 200 degrés, elle émet plus qu'elle ne reçoit du soleil, donc elle se refroidit. Plus elle se refroidit, moins elle émet, et au bout d'un certain temps, elle émettra autant qu'elle recevra du soleil, et sa température sera constante. Donc il y a une température d'équilibre qui, évidemment, peut changer si l'énergie reçue change. Une voiture en plein soleil, effectivement, quand le soir arrive, l'énergie diminuant, sa température d'équilibre va diminuer. Alors, dernière chose qui concerne la Terre, c'est la température externe d'équilibre des planètes, qui sait bien connaître ça. Par exemple, si vous enseignez en seconde, vous avez le Soleil, qui émet une puissance totale, WT, la Terre, qui est une distance R du Soleil, et une surface unité, qui est quelque part sur la Terre, par exemple un mètre carré sur la Terre. Alors la puissance reçue sur une surface unité, là, c'est l'énergie totale divisée par la surface qui englobe. La surface qui englobe, c'est 4 pi r carré. Et vous voyez que l'énergie reçue varie en 1 sur R2, tout simplement à cause de ça. Énergie qui passe par une surface. Si vous avez de l'énergie qui se propage par une surface, donc qui passe par un périmètre, l'énergie varie en 1 sur R, puisque le périmètre d'un cercle, c'est en fonction du rayon. Pour les sismologues, il y a l'énergie de volume qui varie en 1 sur R2, les ondes de surface, dont l'énergie varie en 1 sur R, la distance entre l'épicentre et le foyer. Il y a plein d'applications. Donc la température d'équilibre d'une surface planétaire, c'est quand le W reçu sera égal au W émis, avec le W émis qui est toujours sigma T4. Le W reçu, c'est le Soleil que je vais supposer constant. Donc 1 sur R2, c'est l'énergie reçue, sigma T4, c'est l'énergie émise. Vous voyez que la température d'équilibre va être fonction de 1 sur racine de R. La température d'équilibre d'une planète est fonction de l'inverse de la racine carrée de la distance au Soleil, et non pas de carré de la distance ou choses comme ça. Alors on peut vérifier si c'est vrai. Alors c'est pas toujours facile parce qu'il faut faire des corrections d'albédo. Si vous mesurez la température sur une planète, même si vous faites la moyenne été-hiver jour-nuit, il faut, si vous voulez les comparer, il faut faire des corrections d'albédo. Une planète blanche, toutes choses égales par ailleurs, sera beaucoup plus froide qu'une planète noire. Mais si on fait des corrections d'albédo, on voit que toutes les planètes, sauf 4, se placent sur cette magnifique courbe en 1 sur racine de R. Et les 4 planètes qui ne se placent pas sur cette courbe, c'est Vénus, c'est la Terre, c'est Mars et c'est Titan. Si vous cherchez les points communs, quand je dis planète, c'est planète des satellites, évidemment. Si vous cherchez les points communs entre ces quatre corps, vous voyez qu'ils ont une atmosphère, et c'est les seuls. Je n'ai pas pris les planètes géantes, parce que je ne sais pas ce que c'est que la surface d'une planète géante. Donc je ne peux pas mesurer la température à la surface d'une boule de gaz. Une boule de gaz n'ayant pas de surface. Donc d'ailleurs, à chaque fois que vous voyez un livre où on vous dit que la température superficielle de Jupiter, c'est moins 150, c'est que le monsieur qui a écrit ça n'a rien compris. C'est peut-être la température superficielle à la surface des nuages. Souvent, on dit à haut niveau, la pression est égale à une atmosphère. Mais la pression, c'est une exponentielle décroissante, sur Jupiter comme ailleurs. Et il n'y a pas de limite à une exponentielle. Ça tend vers zéro, mais ça ne veut rien dire, la surface de Jupiter. Donc là, on a des clés. On sait servir des clés. On connaît les Watt-Boltzmann, Watt-Stefan et tout ça. Et on va parler de l'effet de serre. C'est la première clé qu'il faut maîtriser pour comprendre les variations climatiques. Alors la croyance populaire, Nicolas Hulot, Ségolène Royal, tout ça, hein, c'est pas très gentil pour le peuple, c'est que l'atmosphère, comme la vide d'une serre, arrête les infrarouges et retient la chaleur. Ce qui est vrai. L'atmosphère de la Terre arrête les infrarouges et, entre guillemets, retient la chaleur. Le paradoxe, c'est que la Terre, comme toutes les serres, renvoie vers l'extérieur autant d'énergie qu'il en reçoit de soleil. Et ces deux propositions sont pour beaucoup paradoxales. Alors j'ai piqué sur le web des choses, je n'ai pas tapé ce que n'est pas l'effet de serre, j'ai tapé effet de serre. Et on voit des schémas comme ça, alors beaucoup d'énergie qui arrive, hein, une grosse flèche, et puis il y en a une petite qui part, mais enfin vous voyez qu'il en reste plus qu'il n'en part. Donc là, la Terre renvoie beaucoup moins d'énergie qu'elle en reçoit. Alors là, c'est un peu plus qualitatif, là je l'ai pris dans une grande encyclopédie que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de la peine, mais sérieuse, hein. Le Soleil envoie 341 watts par mètre carré, enfin c'est ce qui arrive au sommet de l'atmosphère. Il y en a un petit peu qui disparaît, la surface arrive aux surfaces, ça repart, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin ça repart. Il y en a la moitié qui repart, la moitié qui revient, puis ce qui revient, ne repartant pas, c'est qu'il est absorbé. Alors on peut vraiment faire encore mieux, hein, ça fait très sérieux là. Avec ça, Ségolène est du bon Dieu, comme c'est beau, il y a des chiffres. Il est toujours les 341, là on chiffre, hein, il y en a 35 qui repartent. 30 ici et 5 là, donc 65 qui ne partent pas. Alors, si ces 65 ne partent pas, c'est qu'ils restent. S'ils restent, ils sont absorbés. S'ils sont absorbés, ils chauffent. Alors, j'ai fait un rapide calcul d'ordre de grandeur. Vu la masse de l'océan, 10 puissance 21 tonnes, la capacité calorifique de l'océan, il faut environ 10 puissance 100 secondes avec ce schéma-là, c'est-à-dire quelques siècles, pour porter l'océan à ébullition. Donc, tous les gens qui font ça, ça ne les gêne absolument pas de porter l'océan à ébullition. Ils n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? C'est parce qu'ils ont oublié ce que c'est que la notion d'équilibre. C'est les mêmes qui font les budgets, hein, donc on voit qu'ils n'ont rien compris. Si vous avez un certain nombre de réservoirs, de pompes, etc., ben l'équilibre, c'est quand, en gros, la somme de ce qui rentre est égale à la somme de ce qui sort. Alors, il peut y avoir un léger déséquilibre, ça monte un peu, ça descend un peu, mais il faut que le déséquilibre soit léger, ou s'il est fort, qu'il ne dure pas longtemps. De toute façon, même s'il est léger, que ça dure très longtemps, rapidement, il y a un problème. Et ce qui peut se traduire par le fait qu'un réservoir va déborder ou qu'un réservoir va se vider. Donc, quand il y a un déséquilibre, et il y en a de temps en temps, mais en sciences de la Terre, on a le temps pour nous, 4 milliards d'années, et bien, un déséquilibre sur longtemps, ça se voit. Ça peut arriver, hein, il y a des crises climatiques tout à fait naturelles, parce qu'il y a un déséquilibre, mais ça se voit. Alors, intellectuellement, il doit y avoir équilibre approximatif entre ce qui rentre et ce qui sort sur Terre. Il ne peut pas en être autrement. Et les gens qui dessinent à côté, c'est qu'ils sont aussi bons en science en général que moi en danse, maintien et bonne manière. C'est vous dire. Donc, intellectuellement, il y a équilibre. Il ne peut pas en être autrement, ou alors on s'est complètement trompé en thermodynamique et tout ça. Et en plus, moi je suis naturaliste, je mesure. Enfin, je fais confiance à ce que je mesure. Il arrive 301 watts par mètre carré en moyenne. Si on est en satellite et qu'on regarde que la Terre réémet, alors elle réémet du visible, parce que la Terre n'est pas complètement noire, mais elle réémet de l'infrarouge proche, l'infrarouge moyen, l'infrarouge lointain. Si on somme tout ça, eh ben en gros, ça fait 341 watts. Donc la Terre réémet autant qu'elle reçoit. C'est nécessaire, intellectuellement parlant, c'est observé. Alors, une première grosse colère. Voilà ce qu'on fait dans notre ministère chéri qui s'appelle Développement durable et énergie. Ils nous définissent ce que c'est que l'effet de serre. C'est la COP21, tout le monde en parle. Et il y a un super schéma d'une super cloche. Mais il y a le soleil, l'énergie du soleil qui rentre, ça ressort, ça bute sur la cloche, ça redescend, ça repart, ça rebute, et ça sort pas. Donc on n'a plus d'énergie qui rentre et pas d'énergie qui sort. Alors il y a une phrase extraordinaire là que j'ai encadrée, la Terre reçoit toute son énergie du soleil, en gros c'est vrai, l'énergie qui vient de l'intérieur, l'énergie géothermique c'est 1 pour 5000, on va la négliger. Alors il dit, seule une partie de cette énergie est absorbée par la surface terrestre et l'atmosphère, le reste étant immédiatement renvoyé vers l'espace. Bon, immédiatement c'est l'albédo, si on peut dire, 30%, 70% est resté. Les gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère ont un rôle important dans la régulation du climat, ça c'est vrai, ils empêchent une large part de l'énergie solaire. De quoi il s'agit. Les rayonnements infrarouges solaires, ils existent, mais ils sont marginaux. L'essentiel de l'énergie solaire est dans le visible. Donc ils empêchent l'énergie solaire d'être envoyée de la Terre vers l'espace. Donc ils ne sortent pas. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc cette phrase, c'est comme si j'écrivais un traité d'économie sous la Babylone antique, j'écrirais n'importe quoi. Ce ne serait pas tout faux, parce que quand on écrit n'importe quoi au hasard, c'est juste une fois sur deux et faux une fois sur deux. Mais c'est à peu près ça que fait le ministère. Ils n'ont rien compris. Enfin, ceux qui ont écrit ça, ceux qui ont laissé passer ça. Alors, la physique de l'effet de serre, elle est bien connue, encore des vieilles photos, fin 19e, début 20e, hein, c'est pas une nouveauté. Ça part du principe que certains gaz de l'atmosphère sont transparents à la lumière visible, c'est le cas de l'oxygène, de l'azote et tout ça. C'est le cas pour la lumière visible du soleil, autour de 0,5 micron, mais le méthane, le gaz carbonique, la vapeur d'eau, c'est transparent aussi. C'est pour ça que je vous vois. Si l'atmosphère n'était pas transparente à lumière visible, eh ben je ne vous verrais pas. Mais il se trouve que certains gaz, le diazote, le dioxygène, sont transparents aux infrarouges. Par contre, dioxyde de méthane, dioxyde de carbone, méthane, vapeur d'eau sont opaques. Donc s'il y a un niveau avec ces gaz-là, l'infrarouge arrive et il est absorbé. S'il est absorbé, évidemment, il est transformé en chaleur. Alors, en vrai, là, vous avez la longueur d'onde, attention, c'est une échelle logarithmique. Ça, c'est l'énergie émise par le Soleil, qui est centrée sur le visible, par définition du visible, adaptée au Soleil. Vous voyez que le maximum de l'énergie, ça, l'infrarouge, il y en a, mais c'est minoritaire, l'infrarouge. La Terre, qui devrait théoriquement avoir une température de 255 K, en a un peu plus, devrait réémettre à cette longueur d'onde-là. Donc, et si vous prenez une échelle log, à l'équilibre, l'énergie reçue par mètre carré était égale à l'énergie réémise par mètre carré. Le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que l'atmosphère n'est pas pareillement transparente en fonction de la longueur d'onde. Et si je simplifie à outrance, dans les gammes de longueur d'onde émises par le Soleil, l'atmosphère est transparente. Quand on est en bas, là, ça veut dire que c'est 0% d'absorption, c'est-à-dire 100% de transparence. Quand on est en haut, c'est 100% d'absorption. Les kilomètres d'atmosphère absorbent tout. Donc, pour simplifier, l'atmosphère est transparente à l'énergie qui vient du Soleil. Je simplifie. Et toujours pour simplifier, à quelques fenêtres près, dont servent les astronomes pour faire des observations dans l'infrarouge, mais à quelques fenêtres près, l'atmosphère est opaque aux infrarouges réémis par la Terre, qui sont autour de 15-20 microns de longueur d'onde. La même quantité d'énergie, mais pas la même qualité par mètre carré. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'effet de serre. Je me suis rendu compte, cette année, à la suite d'un écrit blanc, j'avais expliqué ça aux élèves avant, ça c'est ce qui vient après, je leur avais dit, attention, c'est un modèle pour comprendre, c'est pas une réalité. Et en particulier, je faisais beaucoup de va-et-vient. J'aime les va-et-vient. Mais ils n'avaient pas compris que c'était un modèle, et dans une copie, ils ont plein de dire, voici, raconter cette décomposition intellectuelle pour comprendre en réalité physique. On fait une décomposition intellectuelle pour comprendre, voilà là. On va essayer de comprendre, alors, ça, et on va se servir de va-et-vient, mais il n'y a pas des photons qui font des va-et-vient infinis sur Terre. Donc on modélise une serre, un sol opaque sombre, en physique on appelle ça un corps noir, il absorbe tout, et une vitre infiniment mince, infiniment transparente à la lumière visible, infiniment opaque à l'infrarouge. C'est vraiment la serre parfaite, idéale, théorique. Et le soleil éclaire tout ça, il envoie 100% de son énergie, 100 watts. L'énergie traverse la serre, la vitre sans problème, elle arrive au sol. Qu'est-ce qu'elle fait au sol? Tout est absorbé. Puisque tout est absorbé, le sol chauffe. Et à l'équilibre, le sol renvoie, sous forme d'infrarouge, donc autour de 15 microns de longueur d'onde, 100 watts. Ces 100 watts arrivent sur la vitre, opaque aux infrarouges. Donc ça chauffe. Si ça chauffe à l'équilibre, ça va renvoyer 100 watts. Mais comme la plaque est mince, ça renvoie autant vers le haut et vers le bas. Une plaque de métal chauffe rouge, elle chauffe des deux côtés à la fois. Donc 50 watts vers le haut, 50 watts vers le bas. Les 50 watts vers le haut, on n'en parle plus. 50 vers le bas, il chauffe. C'est renvoyé sous forme d'infrarouge, ça chauffe. C'est renvoyé vers le haut et vers le bas, ça chauffe, ça remonte. C'est renvoyé vers le haut et vers le bas, et ainsi de suite. Et sans fin. C'est ça le va-et-vient, mais il n'y a pas des photons qui font des va-et-vient comme ça. Alors, en haut, qu'est-ce qui repart? C'est 50, plus 25, plus 12,5, plus 6,25, etc., etc. Alors là, suivant, si on avait une éducation nationale sérieuse, on pourrait faire ça à des classes de 3e, par exemple, et on leur demanderait, ben, qu'est-ce qui ressort? Alors, pour faire ça, ben, ils prendraient une calque. Alors, je répète, attention, c'est un schéma pour faire comprendre. Je mettais que ça à mes étudiants, là, cette année, mais il y en a qui n'ont pas bien compris. Alors, j'ai mis mon va-et-vient. Si vous prenez des 3e, comment font-ils pour savoir combien ça fait 50, plus 25, plus 12,5, plus 6,25 plus... Pas facile. Alors, on mettra un facteur. Ça fait 50, plus 50 sur 2, plus 50 sur 4, plus 50 sur 8. Et on mettra, ça fait 50 fois 1, plus 1,5, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, etc. Et avec une calculette, vous calculez 1, plus 1,5, plus 1 quart, etc. Et vous ne vous arrêtez jamais. Alors, au bout de quelques minutes, ils en seront à 1,9, puis à 1,99, puis à 1,999, mais ils ne dépasseront jamais 2. Et ça, ça me rappelle une question que s'est posée un grec, Zénon, qui s'appelait, en moins 450 de notre ère. Et il se posait la question, il y a Achille qui court très vite, une tortue qui marche très lentement. Achille est à 20 km de la tortue. Achille part, mettons à midi. À quelle heure exactement va-t-il rattraper la tortue? Pendant qu'il va faire 20 km, ben la tortue a fait 2 mètres. Alors Achille va faire 2 mètres. Et la tortue va faire 2 mm. Alors Achille va faire 2 mm. Et la tortue va faire 2 microns. Alors Achille va faire 2 microns. Et la tortue va faire 2 millièmes de micron. Comment savoir exactement à quelle heure Achille va rappeler la tortue? Je me suis posé cette question quand j'ai appris l'heure. À quelle heure on apprend l'heure? 5 ans, 6 ans? Ouais. Je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas trop. Je me suis posé la question, j'ai demandé à mon papa qui n'a pas bien su m'expliquer. À midi, la grande aiguille et la petite aiguille sont exactement superposées. À quelle heure, vers 1h05, sont-elles de nouveau exactement superposées? Calculez à quelle heure il est quand les deux aiguilles sont superposées. Parce que quand, au bout d'une heure, là, les grandes aiguilles là, mais la petite a fait ça. 5 minutes, la petite a fait ça. Et j'étais incapable de vous dire c'est à 1 heure, 5 minutes, etc. Et j'étais très frustré, je sais pas, là je vous apprends l'heure. Et mon papa n'a pas su m'expliquer. Donc on pourrait faire de l'histoire des sciences avec ce paradoxe d'Achille. Alors ça c'est pour les troisièmes. Pour les, alors de mon temps, c'était en terminale. La somme dont je sais, c'est 1 plus 1,5, etc. Alors, en terminale, je sais que 1, c'est 1,5 puissance 0. N'importe quoi puissance 0, ça fait 1. 1,5, c'est 1,5 puissance 1. 1 quart, c'est 1,5 puissance 2. Donc ça, c'est la somme de 1,5 à la puissance n. Et pour les forts en maths, on peut rappeler que la série somme de 0 à l'infini avec x inférieur à 1, eh ben, ça tend vers 1 sur 1 moins x. Ça, c'était en terminale, je crois qu'on faisait ça de mon temps. Dans notre cas où 1,5, x égale 1,5, la somme de 1,5 puissance 0, etc., ça tend sur 1 sur 1 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 0,5, ça tend vers 2. Et c'est pour ça que notre somme, là-haut, 50, là, ça fait 100. Ça fait 2 fois 50. Donc, si on avait une éducation nationale digne de ce nom, on pourrait travailler avec les profs de maths, travailler éventuellement avec les profs d'histoire, de philo, tous ces machins-là. C'est des questions intéressantes. C'est pas curriculaire, c'est pas... mais c'est intéressant. Alors, donc, si je résume, qu'est-ce qui repart de la serre, qu'est-ce qui arrive sur la serre? 100 watts. Qu'est-ce qui repart de la serre? 100 watts. C'est à l'équilibre, on est tranquille. Qu'est-ce qui arrive au sol? Ben, il arrive 100, plus 50, plus 25, il arrive 200 watts au sol. Qu'est-ce qui repart du sol? 200 watts. Qu'est-ce qui arrive sur la vitre? Je ne parle pas ça, ça n'arrive pas, puisqu'il n'y a fait que passer. Il arrive 200 watts sur la vitre. Qu'est-ce qui repart? 200 watts. Donc, tout est à l'équilibre. Mais la chose prodigieuse, si vous, alors là, c'est les vrais chiffres, c'est pas les sommes, etc. S'il n'y avait pas de serre, il arriverait et il repartirait 100 watts du sol. Ce qui l'intéresse, c'est la température au sol. Avec la serre, il en arrive 200 watts. Et il repart 200 watts. Donc, s'il en arrive deux fois plus, et comme W égale sigma T4, si W est multiplié par 2, la température est multipliée par racine quatrième de 2. Température d'équilibre, c'est-à-dire 1,19. une planète qui est théoriquement à 255 K, moins 18, passe à 255 fois 1,19, c'est-à-dire 303, c'est-à-dire 30 degrés. L'effet de serre va nous faire monter la température avec cette serre parfaite et théorique, etc., de moins 18 à plus 30. Alors que la Terre ne va pas garder un joule d'énergie. Et c'est ça que Ségolène n'a pas compris, que Nicolas Hulot n'a pas compris, et que personne, pas grand monde, a compris. Alors, la Terre, avec son atmosphère, n'est pas une serre parfaite. Alors là, vous avez les vrais chiffres, mais on s'en fout pour le principe. Il y a plein de choses compliquées, mais ce n'est pas grave. Mais le principe, j'espère que vous l'avez compris. Et c'est pour ça qu'il arrive en gros 341 watts par mètre carré. Le Soleil peut varier. Par exemple, tous les 11 ans, ça varie un petit peu. Il repart en gros 341 watts par mètre carré. Et ça marche très bien. Alors l'effet de serre naturel sur Terre, qui c'est qui fait ça? C'est le 1% qui n'est pas de l'azote et de l'oxygène. C'est-à-dire essentiellement la vapeur d'eau, le méthane et le CO2. Qui sont ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. La Terre est une serre naturelle. Maintenant, les gens compris disent bien, la Terre est une serre naturelle, ils le disent. Alors, cet effet de serre, c'est les chiffres de l'avant-dernier GIEC, que je n'ai pas changé mon transparent. J'ai simplement marqué chiffres de l'avant-dernier GIEC, c'était plus facile que de chercher les chiffres du dernier GIEC. L'effet de serre naturel rajoute 155 watts par mètre carré aux 341 watts par mètre carré qui arrivent du Soleil. Avec 341 watts, il devrait faire moins 18. Avec ses 341 plus 155, c'est-à-dire 496, il fait 32 degrés de plus, c'est-à-dire 14 degrés. Ça, c'est le Beaujolais avec effet de serre. Et ça, c'est le Beaujolais sans effet de serre. Merci l'effet de serre. Alors, les esprits chagrins diront qu'il n'y a pas de manchot au Beaujolais parce que la mer est loin. Mais enfin, bon. Alors, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente l'effet de serre. Et à ma vie, toute simple, je rajoute une deuxième. Et c'est les chiffres, pareil, de l'avant-dernier GIEC. Aux 155 watts d'effet de serre naturel, on rajoute 2,8 watts par mètre carré, toujours, dû au gaz à effet de serre relâché par l'homme. Alors maintenant, ça doit être plus que de 8, hein, parce que ça, c'est l'avant-dernier GIEC. Alors, les principaux gaz à effet de serre anthropiques, ANTHRO, l'entropie, c'est le CO2, le méthane, et puis quelques autres. Alors, rappelez-vous la notion de température d'équilibre. C'était la voiture, ça. Donc, actuellement, la Terre, admettons qu'on est sorti du congélateur, eh ben, sa température d'équilibre qu'elle aura atteint en quelques millions d'années, le temps de chauffer l'océan, c'est long quand même. Hein. Ça serait 14 degrés, température d'équilibre. Là, comme on rajoute de l'énergie, 2,8 watts de plus, chiffre de l'avant-dernier GIEC, eh ben, il y a une nouvelle température d'équilibre et on est en train de passer à 14 plus Y degrés Celsius, la nouvelle température d'équilibre. Et le but de la COP21, c'est que cette température d'équilibre ne dépasse pas 2 degrés de plus que maintenant. Enfin, de plus qu'avant la révolution industrielle. C'est-à-dire 1,2 de plus que maintenant. Et après, il faudra que l'énergie qui arrive soit toujours la même, on reste au même équilibre, donc ne plus augmenter les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et même si on veut revenir à cet environnement, il faudra qu'il diminue. Donc c'est ça l'enjeu de la COP21. Alors là, j'ai dit l'exemple typique d'une exigence bidon, modèle d'une très mauvaise démarche scientifique, modèle de ce qu'il faudrait apprendre à nos élèves à ne pas faire. Alors pourquoi cette expérience, elle est stupide? Parce que dans ma cloche, dans mes deux plateaux, un avec la cloche et l'autre sans cloche, la chaleur peut quitter le plateau, soit par rayonnement, c'est ce qui compte dans l'effet de serre, soit par convection, parce que l'air chaud du plateau va monter. Ça, ça ne concerne pas l'effet de serre. Et il est évident que dans ma cloche, là, il y a le thermomètre et eau, il y a deux raisons pour lesquelles il peut monter, le thermomètre. C'est peut-être parce qu'il y a de l'effet de serre, mais peut-être aussi parce que j'ai mis un couvercle. Et quand on met un couvercle, il fait plus chaud dessous. Or, en science, on essaye de faire varier qu'un paramètre à la fois. Quand il y a deux choses qui varient à la fois, la température monte à cause de l'effet couvercle, à cause de l'effet de serre. Vous êtes capable de chiffrer? Moi pas. Alors on pourrait empêcher la convection du plateau, sans cloche. Par exemple, avec l'expérience sous vide. Pas de convection si c'est sous vide. Pas facile à faire ça en classe. On pourrait estimer l'importance du seul effet couvercle en prenant une cloche transparente aux infrarouges et une cloche opaque aux infrarouges. Il y aurait la même absence de convection et la différence serait due à l'effet infrarouge. Alors, dans la vie de tous les jours, les substances, j'en ai pas trouvé beaucoup, hein. Il y a le diamant, le sel gemme, il doit y en avoir d'autres, qui laissent bien passer l'infrarouge. Je pense pas que dans un lycée, vous ayez des cloches à fromage en diamant ou en selgem. Diamant, ça serait résistant. Selgem, ça serait fragile. Donc ça, c'est la première difficulté monstrueuse. La deuxième difficulté, c'est que la lampe utilisée, en général, c'est une lampe à incandescence. Et une lampe à incandescence émet la majorité de son énergie dans l'infrarouge. Une lampe à incandescence, c'est 2000 degrés. C'est pas 5000 ou 6000. Donc la cloche de verre ou de plexiglas, où il y a des gens qui raffinent, ils mettent une cloche avec du CO2 dedans, mais elle est chauffée par l'extérieur, puisque vous prenez chauffer avec des infrarouges surtout. Et une cloche, l'effet de serre, c'est justement chauffé par dessous, non pas chauffé par en haut. Donc vos manips, c'est l'inverse d'un vrai effet de serre. Donc pour l'expérience, une cloche de verre soit significatif, soit que l'expérience soit faite sous vide et avec un éclairage fait par le soleil, prenez votre cloche, faites le vide, et vous allez dehors, en transportant le vide avec vous. Là, il y aura l'éclairage du soleil, le vide, etc. Alors si on ne fait pas l'expérience sous vide, comme je dis, on pourrait faire comparer, etc. Si vous ne faites pas tout ça, je vous laisse le choix des mots, le pipeau ou le bidon. Expérience pipeau, expérience bidon. Et pourtant, alors j'ai regardé sur le web des travaux faits par des professeurs très sérieux où pour montrer l'effet de serre, justement, hein, ils mettent une lampe incandescente, je suppose, un truc avec une plaque de verre, un truc sans plaque de verre, ils demandent à l'élève de monter. Alors, thermomètre montrant.